Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Ensemble, l'émission de Radio Rancière qui vous permet eh bien, de mieux connaître le tissu associatif eurélien et en particulier ici à Chartres. On va évoquer aujourd'hui le salon des aidants familiaux qui se déroulera le 7 décembre de 14h à 19h à l'Agora de Vernouillet, près de Dreux. Pour évoquer ce salon des aidants familiaux, eh bien, deux acteurs majeurs de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, son président Yvan Kuntz et Alex Dessay, qui est coordinateur de ce qu'on appelle l'institution familiale au sein de l'UDAF. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venus nous voir pour évoquer ce salon des aidants familiaux. On va peut-être tout d'abord, dans la première partie de l'émission, parler un peu de l'UDAF, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas l'Union départementale des associations familiales. On comprend que c'est une sorte de fédération, finalement, des associations familiales. C'est un peu ça qui veut répondre.
Voilà. Je me dévoue, si vous voulez. Donc, l'UDAF a été créé par ordonnance du général de Gaulle en 1945, l'objectif étant de fédérer et de regrouper l'intégralité des associations familiales des départements, qui étaient un nombre important à cette époque-là. Et l'objectif est d'avoir, d'une seule voix, pouvoir porter la parole des familles sur les territoires. C'est pour ça que ça a été créé à l'époque.
Voilà. Il y avait évidemment, au lendemain de la guerre, énormément de questions à résoudre, j'imagine, pour les familles.
Hein. Voilà. Et encore maintenant.
Et encore maintenant, oui. Mmh. Peut-être plus que jamais, je ne sais pas.
Sûrement, oui.
Je vous poserai la question, d'ailleurs, tout à l'heure. Est-ce que la situation est pire qu'il y a deux ans? Parce qu'il y a deux ans, on s'était vus. Oui, tu es venu me voir aussi pour évoquer le salon des aidants familiaux. Tiens, je vous pose la question.
Le Covid n'a pas fait du bien, justement. On a perdu pas mal de personnes. On a isolé pas mal de personnes. Et beaucoup de gens ont du mal à revenir dans le circuit.
Ouais.
Voilà. Au niveau des budgets, au niveau de la communication, au niveau de l'alimentation, ça a été, je pense, une période qui n'a pas été facile à gérer. Autant de l'intérieur de l'UDAF, par rapport à tous nos délégués qui devaient aller visiter ces personnes, que de l'extérieur, par rapport aux personnes qu'on allait visiter, justement.
Oui. Alors, il y a plusieurs services au sein de l'UDAF. On parlait tout à l'heure de l'institution familiale, on y viendra. Mais vous avez aussi en charge ce qu'on appelle les tutelles. Qu'est-ce que ça veut dire quoi?
Alors, les mesures de protection, donc, l'UDAF est divisé donc, en deux parties, donc les services sociaux, qu'on appelle sociaux, et donc l'institution familiale qui est un petit peu différent et à part par rapport aux services qui sont proposés. Donc, les services sociaux représentent donc une grande partie de nos activités. Premièrement, tout simplement parce que c'est là où on a le plus de salariés. On est presque 75 salariés dans nos locaux. En majeure partie, ce sont des mandataires judiciaires qui s'occupent de la gestion de mesures de protection. Donc, sur l'action auprès des majeurs, donc les MJPM, les mesures de gestion protection des majeurs.
Voilà. Ouais.
Où on a de nombreux collègues qui gèrent à peu près 1250 à 1300 mesures par an.
Alors, quand on dit des mesures, excusez-moi, ce sont des mesures
De protection.
De protection. Par personne. C'est-à-dire que vous avez 1250 à 1300 personnes séparément qui sont gérées.
D'accord.
Justement à ce niveau-là.
Ce sont des personnes en grande difficulté.
Oui, souvent. Majoritairement, souvent. C'est des personnes qui, donc, par décision du juge, ont une mesure de protection, donc une curatelle, une tutelle, donc les différentes formes de mesures de protection qui peuvent exister, et qui sont accompagnées par des mandataires judiciaires qui, eux, sont diplômés et qui accompagnent ces personnes de mieux qu'ils le peuvent.
Ouais. Donc 1300 majeurs et 150 mineurs, et là, c'est la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse,
donc? Non, c'est différent. C'est totalement différent. Donc ça s'appelle de la MJA-GBF, donc c'est des mesures d'accompagnement aux prestations familiales. Donc en fait, ce sont aussi des mandataires, des délégués mandataires judiciaires qui accompagnent des familles sur ce qu'ils vont percevoir en termes de prestations familiales, donc ce qui est versé par la CAF, et qui ajuste au fil des années l'accompagnement vers l'autonomie de ces personnes, pour qu'ils s'assurent de gérer et de payer au mieux les charges de la famille.
Ouais. Il y a combien d'associations regroupées au sein de l'UDAF en Eure-et-Loire?
Il y a d'associations à peu près 80 et quelque chose comme 18 ou 19 fédérations. C'est-à-dire qu'on gère en tout, entre les associations et les fédérations, quelque chose comme 5000 familles.
Ouais. Ah, moi, j'étais très, très étonné de voir que vous étiez pratiquement dans toutes les instances. Vous pouvez nous les dire, nous les donner?
Alors, une des missions de l'institution familiale que j'ai pas présentée, mais c'est avant tout la représentation des familles. Donc, la mission première des UDAF, c'est donc comme on vous l'a dit, fédérer les associations familiales et faire remonter auprès des instances publiques les besoins des familles. Mais c'est aussi et avant tout représenter et défendre le droit des familles. Ça, c'est une des fonctions que nous avons aussi. Sur l'institution familiale, donc on gère la représentation des familles dans les instances du département. Donc, comme on a pu le préciser tout à l'heure, donc on intervient sur la santé, le logement, tout ce qui va être accompagnement, le surendettement,
la CAF,
la CPAM,
le département.
Auprès du département aussi, tout ce qui va être CCAS aussi, très important pour nous aussi. Donc, et avant tout pour porter et défendre la voix et les droits des familles.
D'accord. Donc vous êtes présent au sein du Centre communal d'action sociale. Quel va être par exemple votre rôle si vous suivez une famille au sein, par rapport au CCAS par exemple ou par rapport à d'autres instances? Vous êtes l'interface entre les familles et...
C'est exactement ça. On gère les familles, on est là pour les aider, aussi bien au niveau budget qu'au niveau logement, n'importe quoi. On est là pour les aider et pour les accompagner jusqu'à ce qu'ils arrivent à se débrouiller tout seul et à être autonome tout seul.
Voilà. Et la représentation est bien spécifique, c'est-à-dire que ce sont des bénévoles qui le font.
Voilà.
Ce sont majoritairement des hommes et des femmes du département qui ont entre 50 et 70 ans, qui, eux, vont être nommés par l'UDAF dans ces instances et vont devoir défendre, sur leur temps personnel, le droit des familles.
On appelle ça des représentants des usagers et Alex en gère 130 au niveau de l'UDAF, ce qui n'est pas une mince affaire quand même à tous les niveaux.
Oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, du surendettement. Il y a beaucoup de familles surendettées en Eure-et-Loire.
Oui, il y en a. Et il y en a de plus en plus. Le pouvoir d'achat a baissé, vous le savez très bien. Tout le monde en parle au niveau dans les médias, au niveau du gouvernement qui essaye de revaloriser ça. Mais le pouvoir d'achat a baissé et les gens ont de plus en plus de difficultés à pouvoir être autonomes à ce niveau-là. Vous savez, quand vous voyez des familles à partir du 10 du mois qui n'ont pratiquement plus rien pour subvenir à leurs besoins jusqu'à la fin du mois, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose de très, très, très prégnant et c'est quelque chose de très inquiétant par la même occasion.
Dans ce cadre-là, du coup, on propose donc un service qui est rattaché donc aux services sociaux, donc qui s'appelle le PCB, donc le point conseil budget, qui englobe 3 à 4 services différents, toujours pour le bien des familles et qui est toujours gratuit, c'est important de le préciser aussi. Donc c'est du conseil budgétaire pour des familles en difficulté, pas forcément en précarité, mais en difficulté, qui aussi peut accompagner dans le cadre du surendettement pardon, et sur l'accompagnement du montage du dossier de A à Z.
Alors comment on se sort de la spirale du surendettement ? À partir du moment où on est pris en charge par l'UDAF, on peut s'en sortir ?
Oui, on peut s'en sortir. D'abord, c'est bien géré par tous les délégués dont vous a parlé Alex tout à l'heure au niveau des budgets, au niveau de l'UDAF. Et petit à petit, les personnes apprennent à se gérer eux-mêmes, même par l'intermédiaire de petits prêts qui leur permettent, par exemple, d'acheter une petite voiture pour les déplacements, pour le travail, ainsi de suite. Petit à petit, ils apprennent à gérer, ils apprennent à rembourser leurs dettes, à se gérer eux-mêmes, et ils y arrivent, oui. À la fin, le but principal de l'UDAF, c'est pas de continuer à gérer tous ces budgets, c'est d'aider ces personnes justement à repartir dans la vie active et qu'ils soient autonomes.
Le PCB accompagne du coup ces personnes-là dans le cadre des plans d'appurement. Il les établit avec eux en fonction de leur charge quotidienne et de leurs besoins surtout. Donc on part de la base et des besoins des personnes pour ensuite travailler sur l'autonomie.
Ouais. Et puis, vous travaillez aussi au niveau des microcrédits. Vous êtes également dans Lire et Faire Lire. Moi, je pensais que c'était purement Fédération des œuvres laïques. Pas du tout.
Alex vous le dira. C'est une association entre la FOL, c'est-à-dire l'enseignement, et puis nous-mêmes. Et on est là. Moi-même, j'ai fait partie de cette association. Aller faire lire des enfants dans des écoles. Essayer de leur donner le goût de la lecture. En même temps, le goût de l'orthographe. Et c'est, je vous avoue, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on voit ces enfants justement s'éveiller à cette pratique-là.
On va écouter un peu de musique et puis après on va revenir à ce qu'on appelle les aidants familiaux qui sont le cœur de notre émission.
Le jour se lève pour la figue du motel. Un matin banal, un soleil tout pâle, un samedi en hiver. Elle est bien coiffée, elle part travailler, c'est vraiment pas Noël pour la fille du motel. Machinalement, elle mâchonne son pain blanc, finissant au café, se met à fumer en rêvant. Et pourtant, 8h ont sonné, ça va commencer, c'est vraiment à Noël pour la fille du motel. Le client de la chambre 100 réclame encore des croissants. La chambre veut partir, il faut refaire le lit. Le salon est réservé, on attend des jeunes mariés. Les enfants feront du bruit, les hommes boiront. Viendra la chercher. Ils iront dîner, peut-être au ciné, puis l'amour. Fatigué devant la télé, dans les draps brodés, c'est vraiment pas de elle pour la fille du motel.
Toujours sur Radio Grand Ciel, Christophe Jubien, pour vous accueillir dans l'émission Ensemble. Je reçois aujourd'hui Yvan Kounz et Alex Dessay, respectivement président et coordinateur de l'institution familiale au sein de l'UDAF 28, l'Union départementale des associations familiales de Rhône-et-Loire. Nous sommes ensemble pour évoquer le salon des aidants familiaux qui se déroulera le 7 décembre prochain de 14h à 19h à l'Agora de Vernouillet. Dans la première partie de cette émission, on a vu quelles étaient les missions. Elles sont... Il y a un pléthore de l'UDAF qui, je vous le rappelle, s'occupe notamment de 1300 majeurs dans le cadre des tutelles, qui emploie 75 salariés et qui bénéficie aussi d'un éventail, d'un réseau de bénévoles très, très efficace. Alors là, nous allons parler des aidants familiaux. C'est qui, c'est quoi, les aidants familiaux?
Alors, un aidant, c'est une personne qui accompagne une autre personne qui potentiellement est en perte d'autonomie, qui souffre d'un handicap potentiellement aussi, ou d'une maladie. Voilà.
D'accord. Et donc, on se fait reconnaître aidant familial, c'est un statut ?
C'est pas un statut officiel, mais ça se reconnaît très vite. Je vais prendre un exemple très très simple. Des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et des accompagnants, c'est-à-dire des conjoints, par exemple, qui s'occupent de ces personnes. À un moment donné... Et je peux vous en parler en connaissance de cause parce que ma mère est décédée justement de cette maladie et mon père a été pratiquement jusqu'à la fin à aider ma mère. Et ce sont des gens qui, au bout du bout, s'épuisent justement. Et on est là justement pour les aider, pour essayer de leur amener une aide, pour essayer de s'évader un petit peu. Et vous savez, par exemple, au niveau de l'UDAF, on a quatre associations d'handicapés. Vous avez l'Association française des paralysés de France, vous avez France Alzheimer, vous avez les autismes, Autisme 28, et puis aussi bien la FTC, c'est-à-dire l'Association française des traumatisés crâniens. Donc on sait pertinemment que ces gens-là, ces personnes qui s'occupent justement d'handicapés, à un moment donné ou à un autre, elles s'épuisent. Voilà, elle s'épuise. Et ce salon est là justement pour les aider, pour leur donner, on va leur expliquer ce qu'on fait, toutes les panels de mesures qu'ils peuvent aller chercher pour les aider justement pour gérer leur propre vie là, à ce niveau-là.
Oui.
Les aidants, donc, du coup, depuis peu, c'est un statut qui existe depuis de nombreuses, des dizaines d'années. Hein, on a toujours accompagné nos proches sans jamais avoir de réel statut. Depuis peu, l'État prend en compte cette situation, ce changement, et a fait état, du coup, des besoins des familles qui étaient en besoin de répit, comme vous avez pu préciser tout à l'heure, mais surtout de leur statut. Et donc, du coup, maintenant, il y a une reconnaissance réelle de ce statut par l'État.
Comment vous aidez les aidants, du coup ?
Alors, nous, en tant qu'UDAF, en tant qu'UDAF, donc, nous, on a un service qui est rattaché donc, à l'institution familiale qui s'appelle l'information et le soutien aux aidants et aux tuteurs familiaux, qu'on appelle vulgairement l'ISATF. L'objectif étant de pouvoir accompagner, aider, orienter et écouter les besoins des familles. Donc, on nous contacte librement, gratuitement, par téléphone, par mail et si besoin, sur rencontre, pour qu'on puisse les aider, les accompagner dans leurs droits, dans tous les questionnements qu'ils peuvent avoir au quotidien.
Ouais. À ce niveau-là, par exemple, un autre exemple, l'UDAF vient de créer une nouvelle mission. On a créé un service qui s'appelle l'équicie, c'est-à-dire des chevaux. C'est-à-dire on a une personne qui a un diplôme équicienne, qui est une équicienne, qui accompagne justement les handicapés à venir s'évader ou avec des chevaux. Donc aussi bien les handicapés que les aidants, et on a des personnes qui viennent s'évader justement à ce niveau-là pendant une heure, deux heures, un après-midi, le mercredi, le mardi, le mercredi, je crois que c'est le mercredi, eh bien, ils viennent là s'accompagner. Et derrière va se greffer, eh bien, on a une deuxième personne à l'UDAF qui a passé son diplôme d'équicienne, mais canin, pour les chiens, et qui va venir se greffer dessus, justement pour permettre à ces gens-là aussi de venir avec des chiens, d'aller se promener, de les caresser, et de pouvoir un peu s'évader de leur quotidien.
Oui, parce que souvent, ce qui frappe, c'est la solitude
personnes. C'est terrible, ouais. Ouais, la solitude.
En fait, le fait d'être seul face aux problématiques, face à la réalité aussi, et à la maladie, potentiellement. Donc, on parlait tout à l'heure de France d'Alzheimer, on parle aussi troubles de comportement, on est sur un handicap, on peut être aidant depuis tout petit, on peut aussi être jeune aidant. Il y a aussi un statut qui est reconnu maintenant, et des associations font ce qu'il faut pour justement les accompagner, notamment France Famille Rurale, qui organise des activités par rapport à ça. Mmh. On les en remercie. Maintenant, il est important pour eux, au-delà de leur statut réel, de pouvoir compter sur des partenaires et des vraies associations qui peuvent les accompagner dans ce cadre-là, notamment pour le répit.
Ouais. Voilà. Et au niveau justement de ce salon des aidants, vous avez 28 associations qui seront présentes et qui pourront présenter les services qu'ils offrent justement aux aidants.
Ouais. Vous attendez beaucoup de personnes.
On espère.
Voilà, c'est pour ça qu'on
y a eu un travail de j'imagine.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr.
Ce salon du coup est organisé. Donc c'est la deuxième édition. On aurait dû le mettre en place l'année dernière, mais bon, Covid oblige, on a dû. Bien évidemment reporté. Donc c'était la première édition il y a deux ans maintenant. À Luisan, donc dans la salle polyvalente qui nous a été mise à disposition par la mairie de Luisan.
Comment ça s'était passé justement ? Parce qu'on s'était vu juste avant.
Très bien.
C'était très bien. On a eu près de 300 personnes qui sont venues avec de nombreux questionnements. On avait une table ronde aussi qui a été remerciée et appréciée, je pense, avec de nombreux acteurs, des témoignages aussi, des partenaires, notamment l'UNAF qui nous a proposé de participer à cet événement.
Donc l'UNAF, c'est l'Union nationale des associations familiales.
Voilà, c'est notre tête de réseau national, voilà. Ouais. Et cette année, donc du coup, on repropose cette action auprès de la ville de Vernouillet. L'objectif étant de toucher l'intégralité du département et de travailler et de mailler notre territoire.
Voilà. L'année prochaine, en espérant qu'il se fera, ça se fera dans une autre ville du département. Je sais pas, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou. On va essayer de s'excentrer un peu vers l'est ou vers le sud. Ouais. Voilà. Donc c'est extrêmement important. Et vous avez parlé aussi d'une espèce de réunion. La veille, on a
une table ronde aussi.
Qui va être enregistrée. Voilà, qui va être
proposée. Deuxième table ronde. Et sur une autre thématique, cette fois-ci, donc celle-là, c'est concernant l'isolement et les problématiques liées au Covid et comment ça a pu être géré. Donc c'est une table ronde qui, elle, sera enregistrée numériquement, qui sera accessible la veille sur le site vivap.com, anciennement c'est Chart Live, qui va du coup être retranscrit lors de notre
la journée. De notre lors journée, de la journée, qui sera retransmise en boucle. Ouais. Voilà. Donc les gens pourront assister à cet enregistrement de la veille.
Ouais. Le Covid, justement, cette crise du Covid a distendu les liens familiaux, j'imagine. Alors là, l'isolement a dû être, pour les aidants familiaux, ça a dû être très très dur. Hein.
Pas que les liens familiaux, oui. Ça a distendu. Vous savez, avec, je ne vais pas vous parler du télétravail, mais le télétravail a du bon et puis a du moins bon aussi derrière. Les personnes, quand elles sont en télétravail, ça va bien un moment, et puis après, quelque part, elles perdent leur repère. Elles sont très, très contentes de revenir dans le circuit, de revoir leurs collègues, de discuter un petit peu. C'est bien, mais on peut pas toujours s'isoler. C'est pas toujours très, très bon. Et c'est vrai que ça a distendu beaucoup de choses. Par exemple, nos délégués, pendant une certaine période, et vous le savez, puisqu'on a été confinés, on pouvait pas aller voir toutes les personnes dont on s'occupe. Et quelque part, on en a perdu quelques-unes. Quoi,
quand vous dites perdu, c'est-à-dire?
C'est-à-dire au niveau mental, qui ont perdu leur repère, qui se sont retrouvés toutes seules. Heureusement que par téléphone, par mail, on arrivait toujours à les toucher et puis à s'occuper d'elles. Mais nous, on pouvait s'en occuper. Donc on pense à celles qui étaient complètement isolées, qui ne faisaient pas partie de l'UDAF, qui ont dû se perdre complètement. Quoi. Ouais.
Pour les aidants, c'est le même principe.
Ouais, pour les aidants, c'est le même principe.
Nous, on a une recrudescence de contacts sur le service dont on parlait, l'ISATF, avec, on a presque, pas doublé, mais pas loin, le nombre de contacts qu'on a pu avoir avec les familles sur notre territoire.
Ouais. Et la crise n'est pas terminée, il faut bien le dire.
Écoutez, M. Julien, sur ce que j'ai entendu ce matin, théoriquement, il va y avoir des annonces la semaine prochaine encore qui ne vont pas être gaies, à mon avis. Comme c'est reparti, alors on ne sait pas.
Voilà. Nous, on va maintenir les actions qui sont mises. Ça a toujours été le cas pendant les confinements et les différentes décisions ministérielles. On a maintenu nos actions par téléphone, par mail, sur rencontre. Voilà. Après, il était plus compliqué d'accéder aux demandes en termes de déplacement sur le territoire ou dans leur domicile. Ouais. Mais on essayait de faire le maximum et tout ce qu'on pouvait... à distance.
Nos délégués ont été équipés, celles qui étaient en télétravail étaient équipées d'un ordinateur. Ils ont emporté leur ordinateur. Ils avaient un téléphone de l'usine. Non, c'est pas l'usine, de l'association. Donc, ils étaient en permanence en relation avec les gens dont ils s'occupaient. Oui. Mais ça n'a pas été facile du tout.
J'en viens aux aidants. Les aidants, c'est combien de personnes? On le sait, on aurait on a du mal, évidemment.
C'est indescriptible. On ne sait pas parce que ça touche beaucoup d'associations. On ne peut pas savoir.
Il y a des chiffres qui ont été posés par l'État, entre 14 et 15 000 personnes. En réalité, sur notre territoire, il est compliqué de pouvoir les relever. Après, ce qui est aussi compliqué, c'est de distinguer ce statut d'aidant. Beaucoup d'aidants n'ont pas conscience de leur statut. C'est-à-dire que, par principe, on accompagne tous quelqu'un. Une grand-mère...
Ça peut être un petit-fils, ça peut être un mari, ça peut être
Justement, vous avez un gars qui est très grave et dont s'occupe tout à l'heure. Alex en a parlé au niveau de famille rurale. Vous avez des jeunes qui sont aidants, des jeunes enfants.
Ah oui, des enfants qui sont...
Des adolescents qui sont aidants.
Des collégiens qui accompagnent un parent en situation de handicap qui a pu avoir un accident, un AVC notamment, et qui a besoin d'un accompagnement quotidien. Ouais. Donc ce statut est très important et ça peut toucher tout le monde. Une personne qui va, un petit-fils qui va aller voir sa grand-mère qui est en perte d'autonomie totale et qui a besoin, de venir lui faire sa vaisselle, son ménage, l'accompagner au quotidien pour lui faire ses courses, ça en fait aussi partie. C'est un statut qui est bien particulier et dont peu de gens prennent conscience.
Ouais,
c'est aussi cette difficulté.
C'est extrêmement dur, on se l'imagine, bien. Le salon des aidants familiaux, donc c'est le 7 décembre de 14h à 19h à l'Agora de Vernouillet. Vous serez sur le pont, j'imagine.
Ah, bien sûr. Ouais. Et on attend beaucoup de personnes parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Oui. Même si ce ne sont pas des aidants ou ce sont des accompagnants d'aidants, ils peuvent venir chercher des renseignements. Je répète, il y a 28 associations à l'intérieur qui pourront donner tous les renseignements dont ces gens ont besoin.
Ouais. Et je voulais juste préciser, du coup, cette mobilisation, la création de ce salon, du coup, a été initiée par le Conseil territorial de santé, le CTS,
et l'ARS, l'Agence régionale de santé, voilà, très important,
qui nous porte et qui nous accompagne dans ce cadre-là. Et donc, ce projet émane de réflexion des personnes qui font partie du comité de pilotage. Donc on est entre 6 et 7 associations dont fait partie la MDA, Famille Rurale,
l'UDAF,
l'UDAF,
nous-mêmes.
Voilà. Et donc, c'est toutes ces associations-là qui portent ce projet.
L'enjeu est de taille parce qu'on sait très bien que, notamment la maladie d'Alzheimer, elle se répand, elle progresse et que tous, un jour ou l'autre, on sera forcément peut-être dans la peau d'un...
Mais pas qu'Alzheimer. Alzheimer, c'est très important. Mais vous avez, par exemple, les autistes aussi, c'est exactement pareil. Les traumatisés crâniens aussi, c'est très, très important. Je tiens à dire ici, surtout dans le département d'Eure-et-Loir, l'aide qui nous est apportée par l'ARS et par le CTS, qui est très, très important. On est pratiquement un des départements pilotes à ce niveau-là. Voilà. Et ils nous aident, et c'est très, très important. Et on arrive, avec eux et grâce à eux, à arriver à aider pas mal de personnes.
C'est d'autant plus important qu'il arrive que parfois, les aidants meurent avant les aidés. Et ça, la tragédie suprême.
Vous avez raison. C'est des choses qui arrivent.
Ouais. Merci beaucoup Yvan Kuntz, merci Alex Dessay. Le salon des aidants familiaux de l'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loir, c'est le 7 décembre, je le rappelle une dernière fois, de 14h à 19h à l'Agora de Vernouillet. L'entrée est évidemment libre avec le pass sanitaire, j'imagine.
Ah, bien sûr, toutes les mesures barrières aussi. Et en tout cas, nous, on vous remercie de véhiculer justement ce message.
Merci. Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs. Cette émission Ensemble est terminée. Vous pourrez la réécouter, je le rappelle, sur www.radiograndciel.fr. On se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle édition Chartres. Une excellente fin de journée à toutes et à tous.
Tu as peur des gens qui passent dans ta vie ou sur le trottoir d'en face. Tu as besoin qu'ils te regardent et pourtant tu restes là sur tes gardes. Raconte-toi. Tu écris au visage que tu as vu en quadrichromie à la une des revues. Tu leur dis je te regarde, est-ce que tu me vois dans le brouillard de ma ville où j'ai si froid. Raconte-toi. Raconte-toi. Envoie toutes sortes de messages aux inconnus et lucioles de passage. Prends le parti du risque et des erreurs. Le silence est toujours complice ou trompeur. Raconte-toi. Caméra Super 8, un magnéto. Regarde à l'intérieur de tes rêves et dans les journaux. Toute la folie du monde est dans ton cerveau.